La liste des qualités de mon père, c'est facile. Mais si je dois énumérer celle de ma mère, je ne pense pas que je pourrais écrire grand-chose. Et pourtant, il commença à écrire et se surprit lui-même quand, l'une après l'autre, chacune des qualités de sa mère put prendre forme sur son papier. Tant et si bien qu'une seule page n'y suffit pas et qu'il dut retourner la feuille pour continuer à écrire. Pendant ce temps, il pratiqua le regard profond et prit conscience des très nombreuses qualités de sa maman. Son sentiment de colère contre elle n'était dû qu'à une seule chose, mais celle-ci avait masqué tout le reste. À la fin de l'exercice, il avait redécouvert que sa maman était une personne merveilleuse. Dans un deuxième temps, il put alors s'asseoir et rédiger une belle lettre d'amour pour elle. Il la remercia pour toutes les qualités qu'elle lui avait transmises. « Maman, je suis si heureux et fier d'avoir une maman comme toi. » Une semaine plus tard, son épouse lui téléphona depuis les États-Unis pour lui annoncer « Ta maman a été extrêmement heureuse quand elle a lu ta lettre. » Elle a dit qu'elle avait retrouvé son fils merveilleux. Et elle m'a même confié que si sa propre mère avait encore été en vie, elle aurait aimé pouvoir lui écrire une aussi belle lettre. Après cette conversation avec son épouse, le jeune homme s'assit et se mit à rédiger une deuxième lettre à sa mère. « Maman, si tu regardes profondément en toi, tu verras que grand-mère est toujours vivante dans chaque cellule de ton corps. Et je suis certain que si tu t'assieds et lui écris une lettre, ma grand-mère pourra la lire. Il n'est pas trop tard. » La relation entre la maman et son fils a été rétablie en beauté et bien plus vite qu'on ne pourrait l'imaginer. Selon le traité de paix, si nous ne parvenons pas à transformer notre colère après l'avoir pleinement accueillie et examinée en profondeur, nous devons alors en faire part à la personne concernée dans un délai de 24 heures. Nous n'avons pas le droit de garder notre colère pour nous plus d'un jour. Ce ne serait pas sain. Nous devons la lui exprimer. Pour ce faire, nous nous adressons à l'autre personne, lui expliquant que nous sommes en colère, que nous souffrons. En revanche, si nous sentons que nous ne sommes pas encore capables de le dire avec calme, nous pouvons l'écrire sur un bout de papier. Et là aussi, le traité de paix nous conseille de transmettre ce mot dans les plus brefs délais. Trois phrases pour se réconcilier. Au village des pruniers, nous avons l'habitude d'utiliser trois courtes phrases quand nous nous sentons en colère contre quelqu'un. Si vous voulez, vous pouvez les noter et les garder dans votre portefeuille en guise de rappel. Avec la première phrase, vous exprimez la vérité à l'autre personne. Par la parole aimante, vous lui dites combien vous souffrez et êtes en colère contre elle ou contre lui. Je suis en colère. Je souffre. Et je veux que tu le saches. Bien souvent, dans une situation comme celle-là, nous ressentons de l'arrogance, voire de la fierté. Dans ce cas, quand l'autre personne s'approche de nous et nous demande si nous allons bien, si nous sommes fâchés, nous aurons tendance à répliquer sous l'emprise de la colère « Moi, en colère ? Non. Pourquoi ? Je vais très bien. » Or, cette attitude est à l'opposé de la pratique. Ce que je vous conseille plutôt est de simplement reconnaître « Je suis en colère, vraiment en colère. Je souffre et je veux que tu le saches. » Et si vous voulez préciser davantage votre ressenti, vous pouvez même ajouter « Je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit cela. Pourquoi tu m'as fait cela. Je souffre beaucoup. » Voilà ce à quoi nous invite la première phrase. Avec la deuxième phrase, nous expliquons à l'autre personne que nous veillons à pratiquer. Je fais de mon mieux. Et cela veut simplement dire que je pratique et que, chaque fois que je me mets en colère, je dois éviter de dire ou faire quoi que ce soit. Je reviens simplement à ma respiration et, en pleine conscience, j'entoure ma colère de toute ma tendresse. Je l'examine en profondeur pour bien voir les racines qui sont en moi. En affirmant que je fais de mon mieux, je montre ainsi à l'autre personne que je suis un pratiquant et que je sais comment prendre soin de ma colère. Tout en lui inspirant confiance et respect, cette attitude sera aussi une manière indirecte d'inviter cette personne à pratiquer à son tour. Ainsi, peut-être pourra-t-elle s'interroger sur sa propre attitude. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait pour le faire souffrir autant? Et ça, c'est déjà le début de la pratique. La deuxième phrase invite donc l'autre personne à examiner en profondeur si elle a été injuste dans ce qu'elle a dit ou fait. Avec la troisième phrase, je demande de l'aide à l'autre personne quand, seul, je ne me sens pas capable de transformer ma souffrance, ma colère. S'il te plaît, aide-moi. Bien souvent, le simple fait d'écrire cette troisième phrase apporte déjà un soulagement. Quand nous sommes en couple ou que nous avons des amis de pratique, il est essentiel de pouvoir partager les moments de bonheur, tout comme ceux de souffrance. Maintenant, je souffre. Je veux le partager avec toi. Et j'ai besoin de ton soutien. Or, bien souvent, nous faisons juste l'inverse. Sous l'emprise de notre blessure, de notre colère, nous préférons nous réfugier dans notre chambre et pleurer seul, refusant toute aide venant de quelqu'un d'autre. Cédant à notre fierté, nous voulons punir l'autre en lui montrant que nous pouvons parfaitement nous en sortir sans lui, sans elle. Or, exprimer notre souffrance, ne serait-ce que par écrit, nous aidera à surmonter cette fierté. Cela montre à quel point ces trois phrases peuvent être un véritable guide pour notre pratique. Elles nous aident à nous exprimer sincèrement. Je suis en colère contre toi. J'en souffre beaucoup. Et je veux que tu le saches. Je fais de mon mieux pour prendre soin de ma souffrance. S'il te plaît, aide-moi. Peut-être pourriez-vous écrire ces trois phrases sur un petit bout de papier. La taille d'une carte de crédit suffira pour pouvoir la glisser dans votre portefeuille. Chaque fois que surgira en vous l'énergie de la colère, vous saurez ainsi quoi faire. Il vous suffira de prendre cette carte et de relire les phrases. Le Bouddha sera alors avec vous. Et vous saurez exactement quoi faire et ne pas faire. Nombre de mes amis ont pu appliquer cette méthode et ont transformé leurs relations entre père et fils, entre mère et fille, entre partenaires. Les pratiques de la respiration et de la marche en pleine conscience sont une aide très précieuse pour nous aider à revenir au calme. Elle nous invite à faire appel à ce qu'il y a de meilleur en nous pour gérer la situation. Ainsi, nous ne cédons plus à notre tendance à réagir en laissant colère et violence entraîner encore plus de souffrance. Une lettre de réconciliation. Ces trois phrases peuvent servir de trame à une lettre de réconciliation que nous pourrions écrire. La pratique réserve en effet une part importante à la rédaction de lettres, car, même habités des meilleures intentions, nous restons tous susceptibles de céder à l'irritation quand nous parlons, en réagissant parfois maladroitement si notre pratique n'est pas assez solide. C'est dommage, car cela risquerait de gâcher complètement toute occasion de faire la paix. C'est pour cela qu'il est parfois plus judicieux, voire plus simple, de rédiger une lettre. Cela nous laisse alors l'occasion d'être parfaitement honnête. En mettant sur papier tout ce que nous ressentons dans le plus grand calme, par des mots témoignant paix et amour, nous pouvons expliquer à l'autre personne que certains de ses actes ou paroles nous ont blessés. Nous cherchons à établir le dialogue en lui écrivant des phrases telles que « cher ami, je suis peut-être victime de perceptions erronées et il est possible que ce que j'écris ici ne reflète pas la réalité. Cependant, c'est ainsi que je vis la situation. C'est vraiment ce que je ressens au plus profond de mon cœur. Si mes perceptions sont fausses, alors, s'il te plaît, détrompe-moi. S'il y a quoi que ce soit de faux dans ce que j'écris, prenons le temps de réexaminer la situation ensemble, afin de résoudre le malentendu. En écrivant, il est important d'utiliser la parole aimante et, si une phrase n'est pas assez bien écrite, n'hésitons pas à recommencer et à la remplacer par une autre, plus aimable. Dans la lettre, il est tout aussi important de montrer que nous reconnaissons la souffrance que vit l'autre personne. Toi, à qui je tiens tant, je sais que tu as souffert toi aussi. Et je sais que tu n'es pas totalement responsable de ta souffrance. En pratiquant la vision profonde, nous pourrons repérer certaines des racines et des causes de la souffrance qu'elle vit. Nous pouvons même lui en parler et exprimer ce qui nous fait souffrir de notre côté, montrant ainsi que nous comprenons sa réaction ou les paroles qu'elle a pu prononcer. Cette lettre est vitale pour notre bonheur. Il est donc essentiel de prendre tout le temps dont nous avons besoin pour la rédiger, qu'il s'agisse d'une semaine, voire de deux ou trois si nécessaire. Le temps que nous consacrerons à ce courrier est même plus important que l'année ou les deux années que certains d'entre nous passent à rédiger leur thèse de doctorat. Notre thèse n'est pas aussi essentielle que notre lettre. Cette dernière représente sans doute la meilleure occasion qui s'offre à nous pour parvenir à rétablir la communication. Nous pouvons être le meilleur médecin, le meilleur thérapeute de la personne que nous aimons, car c'est nous qui la connaissons le mieux. L'aide dont nous avons besoin pour rédiger ce message nous sera donnée. N'oublions pas que nous avons des frères et sœurs de pratique au sein même de la communauté qui peuvent nous aider et nous éclairer. Nous ne sommes pas seuls. Quand nous écrivons un livre, nous en confions le manuscrit à des amis et à des spécialistes pour leur demander conseil. Nos compagnons de pratique sont des spécialistes car ils pratiquent tous l'écoute compatissante, le regard profond et la parole aimante. Nous pouvons donc faire lire notre lettre à un frère, à une sœur, et lui demander de nous dire si le ton est suffisamment aimable, assez calme, et si notre regard sur la situation est suffisamment profond. Nous pouvons ensuite la soumettre à l'avis d'une autre sœur ou d'un autre frère, et poursuivre ainsi jusqu'au moment où nous sentirons que notre message pourra contribuer à la transformation de l'autre personne et la guérir de sa souffrance. Cette lettre est tellement importante qu'elle mérite qu'on y consacre tout le temps, l'énergie et l'amour nécessaires. Il est vital de restaurer la communication avec cette personne à laquelle nous tenons tant. Et il est certain que personne ne nous refusera son aide pour un aussi beau projet. C'est peut-être notre père, notre mère, notre fille ou notre partenaire qui nous aidera, ou la personne assise juste à côté de nous. L'essentiel est de commencer dès à présent. Nous pouvons même rédiger les premières lignes aujourd'hui. Ainsi, nous découvrirons qu'avec un simple stylo et une feuille de papier, nous pouvons pratiquer et transformer notre relation. Et même si nous ne pensons pas à ce courrier durant nos activités, que ce soit la marche ou l'assise méditative, le jardinage, le nettoyage ou la préparation de notre repas, il est évident que tout ce que nous ferons sera en relation avec son contenu. Le temps que nous passons à écrire face à notre table n'est que le temps consacré à mettre nos sentiments sur le papier. Mais ce n'est pas véritablement le moment où nous produisons la lettre. Sa véritable création intervient quand nous arrosons les légumes, quand nous pratiquons la méditation marchée, ou même quand nous cuisinons pour la communauté. Toutes ces pratiques nous aident en effet à nous apaiser et à nous rendre plus solides. C'est alors que, par la pleine conscience et la concentration, nous permettrons à nos graines de compréhension et de compassion de se développer. Si la lettre que nous adressons à la personne qui nous est si chère est le fruit de la pleine conscience générée par notre pratique attentive tout au long de notre journée, elle sera certainement magnifique. Et même si nous n'y pensons pas, elle est en train de s'écrire dans les profondeurs de notre conscience. Notre journée ne peut pas se résumer à nous asseoir et écrire. Nous avons d'autres choses à faire. Qu'il s'agisse de simplement boire notre thé, préparer le petit déjeuner, laver nos vêtements ou arroser les légumes. Le temps que nous consacrons à chacune de ces activités est extrêmement important. Nous devons les faire du mieux que nous pouvons et nous impliquer à 100% dans l'acte de cuisiner, d'arroser le potager ou de faire la vaisselle. Nous apprécions tout simplement ce que nous sommes en train de faire et nous le faisons profondément. Cela est essentiel pour notre lettre et pour tout ce que nous voulons produire d'autre. L'illumination n'est en rien différente de la vaisselle ou de la culture des salades. La réelle pratique consiste à vivre intensément chaque moment de notre quotidien avec pleine conscience et concentration. C'est précisément durant ces moments de vie quotidienne que la conceptualisation et la création d'une œuvre d'art prennent naissance. L'instant où nous écrivons notre morceau de musique ou notre poème n'est jamais que la phase d'accouchement de notre bébé. Ce nouveau-né doit déjà être en nous pour que l'on puisse lui donner naissance. Si le bébé n'est pas en nous, nous pourrons rester des heures et des heures face à notre bureau. Il n'y aura rien à produire, rien dont nous pourrons accoucher. Notre vision, notre compassion et notre capacité à écrire d'une manière qui puisse ouvrir le cœur de l'autre sont des fleurs qui s'épanouissent sur l'arbre de notre pratique. Nous devrions faire bon usage de chaque instant de notre vie quotidienne afin de permettre à la compréhension et à la compassion de s'épanouir. C'est grâce à l'énergie de pleine conscience présente en nous que nous pouvons écrire une vraie lettre d'amour et nous réconcilier avec une autre personne. Les mots d'amour sont toujours empreints de vision profonde, de compréhension et de compassion. Sans cela, il ne s'agirait pas vraiment d'une lettre d'amour. La véritable lettre d'amour peut alors induire une réelle transformation chez l'autre personne, et donc dans le monde. Mais avant qu'il nous soit possible de produire cette transformation en l'autre, elle doit s'opérer en nous. Et c'est pour cela que certaines lettres nous demanderont peut-être une vie entière. Maladresse. Si par le passé, nous avons souffert ou fait souffrir d'autres personnes, surtout ne nous laissons pas décourager par la prise de conscience que nous avons aujourd'hui. Si nous savons comment prendre soin de notre souffrance, elle pourra nous enseigner beaucoup. Bien sûr, nous avons fait des erreurs. Bien sûr, nous n'avons pas toujours été très adroits. Certes, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes et nous avons même fait souffrir des personnes autour de nous. Mais rien ne nous empêche de prendre un nouveau départ et de faire bien mieux l'année prochaine et pourquoi pas, tout de suite. Posons un regard neuf sur notre souffrance et nous pourrons la transformer en un élément positif. Nous avons tous commis des bêtises, des maladresses. Mais désormais, nous pouvons faire le choix de progresser, de recommencer et de nous transformer. Généralement, dès que quelque chose va de travers, nous cherchons à ce que cela s'arrange immédiatement. Nous voulons que la douleur et la souffrance, tout ce qui ne va pas, disparaissent au plus vite. Et pourtant, quand nous sommes confrontés à une difficulté, la toute première étape est justement de ne pas chercher à la résoudre. Avant toute chose, il s'agit de la reconnaître, simplement pour ce qu'elle est. Ensuite, quand nous aurons pu rester quelque temps avec nous-mêmes, il sera beaucoup plus facile de nous rapprocher de la personne avec laquelle nous sommes en conflit. Nous pourrons lui parler calmement. Je sais que tu as beaucoup souffert durant ces derniers mois, et même au cours des dernières années. Je sais aussi que je suis en partie responsable de ta souffrance. Je ne t'ai pas montré beaucoup d'attention. Je n'ai pas suffisamment compris ta souffrance et tes difficultés. J'ai peut-être même dit ou fait certaines choses qui ont encore empiré la situation. J'en suis vraiment navré. Ce n'est pas du tout ce que je souhaitais. Au contraire, je veux ton bonheur, ta sécurité, ta liberté et ta joie. J'ai été maladroit à différents moments parce que je ne comprends pas suffisamment bien ce que tu vis. Je t'ai peut-être même donné l'impression que je cherchais à te faire souffrir. Mais tu sais, ce n'est vraiment pas le cas. S'il te plaît, parle-moi de ta souffrance. Ainsi, je ne répéterai plus les mêmes erreurs. Ton bonheur est essentiel à mon propre bonheur. J'ai besoin de ton aide. Parle-moi de tes peurs, de tes préoccupations, de tes difficultés. Ainsi, je pourrai t'aider plus facilement. C'est ce type de dialogue que la vision profonde peut apporter. Bien souvent, nous avons manqué de vigilance à l'égard de nos enfants, ignorant leurs difficultés, leurs souffrances, la colère et la douleur qu'ils portaient en eux. Tout parent devrait être capable de parler à son enfant avec les mots du cœur. C'est le langage coulant directement du cœur qui permet de rétablir la communication et de faire la paix avec l'enfant, permettant alors au processus de réconciliation de s'amorcer. Nous savons tous que la paix commence par nous-mêmes, mais nous ne savons pas toujours comment nous y prendre. Si nous parvenons à générer l'énergie de pleine conscience et que notre souffrance se transforme ainsi en compréhension et en compassion, alors la réconciliation pourra s'amorcer beaucoup plus facilement. Avant cela, c'est quasiment impossible. La fierté, la colère et notre peur de souffrir nous barrent la route. Mais avec la pleine conscience, la compréhension peut pénétrer le terreau de notre cœur, laissant alors jaillir le nectar de la compassion. Se réconcilier avec soi-même. Je me souviens du jour où un couple qui allait se marier au village des Pruniers vint me voir et m'interrogea. « Tai, il ne reste plus que 24 heures avant notre mariage. Comment pouvons-nous nous préparer afin que ce mariage soit une réussite ?» Je répondis, « La chose la plus importante est de regarder profondément en chacun de vous pour voir s'il y demeure encore un obstacle. En ce moment, y a-t-il quelqu'un avec qui vous êtes encore en conflit, avec qui vous voudriez vous réconcilier? Reste-t-il quelque chose en vous-même que vous ne vous êtes pas pardonné? La réconciliation n'implique pas nécessairement une relation avec une autre personne. C'est aussi se pardonner à soi-même. Il y a beaucoup de conflits en nous, et nous devons prendre le temps de nous asseoir pour les harmoniser. Nous devons pratiquer la méditation assise et marcher, de façon à prendre conscience de notre situation et à voir clairement quelle action engager. Si nous pratiquons la marche méditative et la méditation assise, si nous cuisinons, faisons la vaisselle, et veillons à accomplir chacune de nos activités quotidiennes en pleine conscience, c'est toujours avec l'intention de regarder en profondeur ce que nous pouvons faire pour prendre un nouveau départ. C'est ainsi que, à la suite de cette observation, le couple se rendit compte qu'il restait beaucoup trop de choses à réaliser pour les 24 heures dont il disposait encore avant le mariage. L'un et l'autre voulaient notamment se réconcilier au plus vite avec un ami. Mais comment pourrait-il lui faire parvenir une lettre en moins de 24 heures? J'ai pu les rassurer en leur montrant que si la réconciliation prenait place en eux, c'était largement suffisant. Par la suite, l'effet et les conséquences de cette paix serait perceptible partout. Même si la personne avec laquelle nous voulons nous réconcilier est très loin de nous, si elle refuse de décrocher le téléphone ou d'ouvrir notre lettre, même si elle est déjà disparue, la réconciliation est toujours possible. Il s'agit peut-être de notre père, notre mère, notre sœur, notre fille ou notre fils. que cette personne soit toujours en vie ou qu'elle soit déjà décédée, il sera toujours possible de parvenir à faire la paix avec elle. Se réconcilier signifie avant toute chose parvenir à la transformation en nous-mêmes, de façon à ce que la paix puisse être rétablie. Nous savons qu'à tout moment, il est possible de repartir de zéro, de tout renouveler. Notre maman a peut-être déjà quitté cette vie. Mais si nous regardons en profondeur, nous percevrons qu'elle est toujours en vie à travers nous. Nous ne pourrions pas être sans notre maman. Et même si nous la haïssons ou si nous sommes en colère contre elle, même si nous ne voulons pas penser à elle, elle est toujours en nous. Et plus que cela, elle est nous et nous sommes elle. Nous sommes la fille ou le fils de notre mère. Nous sommes sa continuation. Nous sommes notre mère, que cela nous plaise ou non. C'est pour cela que la réconciliation opère à l'intérieur de chacun de nous et que nous réconcilier avec notre mère, notre père, notre fils, notre fille ou notre partenaire implique simplement de pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous regrettons parfois de ne pas avoir dit ce qu'il fallait à quelqu'un de notre famille avant sa mort. Nous regrettons de ne pas avoir été aimable avec cette personne tant qu'elle était encore